Que désire Dieu pour nous? Quel est son désir au sujet de chaque personne humaine, de cet être si noble, si mystérieux, de cet être créé à son image? Quel est son désir pour chacun, chacune d'entre nous? Son désir pour toi aussi, qui t'efforce de me supporter patiemment. Or, nous l'avons entendu dans notre première lecture. Vous vivrez. Dieu désire que nous vivions. Non seulement que nous vivions, mais que chacun ait une place, sa place, son endroit. Le même texte de la première lecture dit « Vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur. » Quelle est cette vie? Quel est ce pays? Cette place mystérieuse que nous désirons à notre tour, que nous cherchons parce que c'est Dieu qui a éveillé ce désir en nous. N'est-ce pas la vie que le Seigneur est seul à pouvoir nous donner? Le pays, le lieu, la place que Dieu est seul à pouvoir nous préparer. Et si c'était en nous faisant vivre de la vie à laquelle il désire nous ouvrir, que nous entrerions dans ce pays, dans l'endroit où nous serons chacun, chacune, à sa place, à la fois chez nous et chez lui. Or, la vie que Dieu désire nous donner n'est-elle pas celle par laquelle nous devenons semblable à lui, notre Seigneur, semblable à lui, l'amour trinitaire? Cette vie qui nous fera cheminer à travers une patiente transformation que Dieu seul peut réaliser en nous, transformation qui dilate notre cœur, la maison de notre cœur, transformation qui nous pousse, nous presse à ouvrir les portes et fenêtres de notre âme, de notre capacité d'être désir, aspiration, ouverture, accueil. Transformation qui nous conduit, comme par une main invisible, à laisser entrer, à accepter la lumière qui désire nous réveiller. La lumière de cet amour que le Seigneur aimerait éveiller en nous et dont le premier signe est l'acceptation de la parole de Dieu. Acceptation qu'aussi bien Saint Jacques dans la première lecture que Saint Augustin méditant souvent les Écritures désigne comme douce, marquée de la souplesse propre à la douceur du cœur. Et le deuxième signe, l'acceptation dans la vérité, la lucidité, les larmes souvent aussi, de nous-mêmes. Enfin, le troisième signe, l'acceptation se dépouillant de toute exigence de l'autre, qu'il soit proche ou inconnu. De ce fait, Dieu ne désire nullement faire de nous une sorte d'être idéal, d'être peut-être brillant, mais peut-être aussi, et malheur si cela arrive, séduisant, captivant, enfermant, emprisonnant. Au contraire, en chacun, le Seigneur est en train de former cet être bien réel, si nous ne faisons pas blocus, cet être bien réel qui accepte d'être aux prises du réel et qui accepte, jour après jour, heure après heure, de devenir place, lieu, don pour l'autre. Don qui jamais ne réduit l'autre à ses propres désirs. Et serait-ce sous l'apparence du sacré, de l'intouchable, du religieux, du spirituel. Dès lors, y a-t-il autre chemin que d'apprendre à nous ouvrir au désir de Dieu tel qu'il se révèle vraiment dans les Écritures, d'ailleurs sans cesse médité par Jésus le Christ? N'est-ce pas là le sens profond des commandements révélés au Sinaï et que rappelle notre première lecture, mais que rappelle sans cesse aussi le Christ? Préceptes qui sont indications du chemin, avertissements, balises d'un chemin de vraie sagesse. Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez. Vous n'ajouterez rien et vous n'y enlèverez rien. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Mais malheur si l'être humain commence à se barricader derrière le calcul, s'il cesse de vivre à partir de la relation que le Seigneur lui offre à travers sa parole. Malheur s'il commence à mesurer le geste qu'il estime devoir à Dieu pour tenter de l'apprivoiser. Car du même coup, il se ferme à la vie, et il ferme à la vie tout ce qu'il touche. Dès lors, tout devient fonction de son calcul égoïste. Aussi bien Dieu que les autres, aussi bien ce qu'il prétend faire pour Dieu que ce qu'il tente d'imposer aux autres, aussi bien ceux dont il accable les autres que ceux dont il s'affranchit lui-même. Dès lors, ne devons-nous pas accueillir avec action de grâce et même un grand soulagement qu'aujourd'hui, dans l'Évangile, la bonne annonce, Jésus n'a que des paroles sévères, et cela pour tout le monde. Des paroles qui ne ménagent ni ses opposants, pharisiens et scribes toujours prompts à critiquer tous les autres, ni ceux qui se considèrent déjà comme ses disciples. Du reste, le sont-ils déjà sérieusement? Et nous tous, avons-nous déjà commencé à l'être? De fait, Jésus vient de dire une parole terrible. si terrible qu'elle ne fut pas jugée digne d'être retenue pour être lue un dimanche. Ce n'est pas dû à notre père abbé qui a lu l'Évangile, mais aux commissions liturgiques d'il y a 50 ans. Et paroles pourtant si nécessaires, oui, qui n'en aurait pas besoin. La voilà donc, car vous y avez droit, vous aussi. Jésus a dit, « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ?» Or, cette parole effrayante ne vise pas les pharisiens ou les scribes avec lesquels Jésus vient de se disputer. Elle vise ses disciples. Elle vise les apôtres Pierre et Jean et André. Mais mettons la main sur notre cœur. Nous autres, présents dans cette Église, aurions-nous vraiment compris davantage? Aurions-nous vraiment compris que c'est notre cœur où se joue tout et que c'est notre cœur qui, sans notre vigilance dans la prière, devient vite un lieu affreux d'où peut sortir le pire, mais que c'est aussi notre cœur qui est le lieu de l'alliance avec le Seigneur, le lieu où, si nous nous ouvrons fidèlement, Dieu peut et veut enraciner son amour en nous.